cette deuxième séance, on va lire un ouvrage qui fait l'actualité. C'est celui de Cécile Charlap, que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui. Son ouvrage s'intitule « La fabrique de la ménopause ». Il est paru en février 2019 aux éditions CNRS. Donc Cécile Charlap est maîtresse de conférence à l'université Toulouse-Jean Jaurès et chercheuse au LIST, le laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société, Territoire, au sein de la composante CERS, le Centre d'études des rationalités et des savoirs. Donc elle vient nous présenter son ouvrage qui est issu de sa thèse, réalisée sous la direction de David Le Breton, qui est intitulée « La fabrique de la ménopause, genre, apprentissage et trajectoire », qui a été soutenue en juillet 2015. Dans ce travail, Cécile Charlap invite à considérer la ménopause non comme une réalité biologique, mais comme un fait social, dont la définition est aujourd'hui, dans le contexte français, largement produite par la médecine. Et donc, en saisissant de ce nouvel objet, elle nous propose d'en découvrir les représentations, les expériences des femmes et les conditions de ces expériences. Donc, pour nous accompagner dans la compréhension de cet ouvrage, nous avons également le plaisir de recevoir Michel Cros, que nous remercions aussi de sa présence. Michel Cros est anthropologue, professeur à l'Université Lyon 2. Elle est spécialisée sur les questions de santé et de nature, auteure d'une thèse sur l'anthropologie du sang et sa mise en scène chez les lobbies au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Et ses publications portent en particulier sur la symbolique du sang, notamment féminin, sur l'imaginaire du sida et les représentations des animaux en Afrique. Dans un premier temps, Cécile Charlap va nous présenter son ouvrage pendant une heure environ. Ensuite, Michel Cros initiera un temps d'échange et puis nous vous inviterons tous à participer à la discussion de l'ouvrage. Donc, sans attendre, merci d'avance de votre attention et on écoute Cécile Charlap pour la présentation de La fabrique de la ménopause.
Bien, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter mes travaux de recherche que je suis très heureuse d'évoquer avec vous aujourd'hui. Alors, pour commencer, je voudrais vous raconter une petite anecdote. En mai 2014, la chaîne de télévision France 2 a diffusé un téléfilm qui était intitulé « Un si joli mensonge ». Et en fait, le scénario du téléfilm mettait en scène une femme ménopausée, qui était incarnée par l'actrice Corinne Touzet, face au désir d'enfant de son nouveau compagnon plus jeune. Et quelques temps après la diffusion du téléfilm, Corinne Touzet expliquait lors d'une interview dans un magazine, je la cite, « Que ce soit clair, je ne suis pas ménopausée. J'avoue que voir en titre dans la presse « Corinne Touzet ménopausée » était un raccourci assez violent. » À mon sens, on a là l'illustration du fait que, dans notre société, on peut conjuguer ménopause et violence, et l'actrice insiste sur le fait qu'elle ne voulait pas qu'on puisse penser qu'elle était ménopausée, ce qui renvoie à cette vision dévalorisée et dévalorisante de la ménopause. Et pour moi, cette anecdote, elle invite à une question. Est-ce que l'articulation ménopause et dévalorisation, elle est universelle? Ou bien est-ce qu'il existe d'autres manières de penser ce processus de ménopause et de vivre ce processus? Donc, j'ai travaillé, moi, à partir de ce type de questions. Et ce qui m'a intéressée, c'est d'interroger la ménopause en tant que catégorie de pensée et en tant qu'expérience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'une part, j'ai pris ce terme, cette notion de ménopause, comme objet d'interrogation. Je me suis demandé si cette notion, elle existait dans toutes les sociétés, à toutes les époques. De quelle manière les sociétés l'ont pensée ou pas? Dans quels termes est-ce qu'elle a été pensée? À quelle représentation sociale et à quelles normes est-ce qu'on l'associe? Et puis aussi, quelles sont les actrices ou les acteurs sociaux qui ont produit cette notion de ménopause et qui ont la légitimité de penser cette notion? Puis d'autre part, je me suis intéressée aux expériences des femmes. Donc je me suis intéressée aux expériences corporelles à la ménopause, comment elles se construisent, quels effets est-ce qu'elles produisent, quelles pratiques les femmes développent. Ce que j'ai questionné aussi, ce sont les significations et les représentations en jeu pour les femmes à la ménopause. Et puis enfin, ce sont les mécanismes sociaux à l'œuvre dans le cadre de l'expérience de la ménopause qui m'ont intéressée, et notamment les rapports sociaux en jeu au cours de cette expérience en termes de sexe, d'âge et de classe. Donc, j'ai travaillé avec comme objectif de partir d'une analyse d'ensemble des cultures de la ménopause, puis de la nôtre, pour ensuite comprendre comment les représentations et les normes nourrissent des expériences des femmes que j'ai ensuite analysées à un niveau individuel. Alors, pour travailler, je me suis appuyée sur un double matériau. Pour travailler cette notion de ménopause, j'ai utilisé un corpus de discours sociaux et j'ai étudié des ouvrages médicaux rédigés depuis le début du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui, donc des dictionnaires médicaux, des encyclopédies, des ouvrages de médecine générale ou de gynécologie. Et puis, je me suis aussi beaucoup appuyée sur les discours des autorités de santé en matière de santé, et notamment celui de l'assurance maladie. J'ai cherché aussi à comprendre comment est-ce que la ménopause elle est construite dans notre paysage français actuel, et notamment comment elle est construite dans le champ médiatique. Donc, j'ai analysé en fait... de 2010 à 2014, dans une sorte de recension, tout ce qui abordait la ménopause dans des magazines. Alors, des magazines visant un public féminin, hein, Elle, Madame Figaro, Gala, ou des magazines destinés aux seniors, Pleine Vie, Notre Temps, Femmes Actuelles, ainsi que des magazines portant sur des questions de bien-être et de santé, hein, Top Santé par exemple, ou Santé Magazine. Je me suis aussi intéressée à des sites internet de vulgarisation médicale, hein, je pense à Doctissimo par exemple. Et puis, en fait, pour être vraiment au courant de tout ce qui sortait à ce sujet-là, eh bien, je me suis aussi bien intéressée à des émissions de radio qui pouvaient aborder ce thème qu'à des tweets sur Twitter. Donc, j'ai vraiment essayé de faire feu de tout bois. Qu'est-ce qu'on dit au sujet de la ménopause aujourd'hui? Qui le dit et comment ça se dit? Donc, voilà pour mon premier... matériaux. Mon second matériau, lui, il est constitué d'entretiens que j'ai réalisés auprès de femmes en cours de ménopause et ménopausées, des âgées de 46 à 65 ans. Une sociologie qualitative, hein, qui n'a pas d'ambition de représentativité, mais qui cherche plutôt à saisir le sens que les acteurs donnent à leurs expériences et l'influence de facteurs sociaux. J'ai essayé de rencontrer des femmes de milieux sociaux et de lieux de résidence relativement variés. Et juste un mot sur mon terrain d'enquête, qui est assez significatif, l'effet boule de neige, il n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que quand je demandais à mes enquêtés est-ce que vous voulez bien parler aux femmes de votre entourage qui seraient susceptibles de répondre à un entretien de ma recherche. Et ça me semble assez signifiant parce que par comparaison, j'ai eu plus de mal à entrer en contact avec des femmes qui acceptaient d'évoquer la ménopause qu'avec les femmes franc-maçonnes que j'avais rencontrées lors d'une recherche précédente. Ce qui me fait dire que la ménopause, elle m'est apparue plus secrète qu'une société secrète. Alors, qu'est-ce qu'il ressort de mon travail? Alors, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est que la ménopause, en tant que catégorie de pensée, elle est le produit de représentations culturelles, sociales et historiques, et elle met en jeu des rapports sociaux. D'abord, la notion de ménopause, elle n'est pas universelle. Et ça, de nombreuses recherches, et celle de ma voisine, Madame Cross, le montre bien. Le signifié ménopause n'est pas universel. Je vais prendre deux exemples avec les travaux de Margaret Locke dans le Japon d'avant les années 90 ou les travaux de Yehud Barbeyen chez les Mayas du Mexique qui montrent que dans la langue japonaise traditionnelle ou dans la langue maya, eh bien, la ménopause en tant que signifié, telle que nous, on la comprend aujourd'hui, elle n'existe pas. Et Yehud Barbeyen raconte une anecdote intéressante. Donc, elle était au Mexique pour évoquer les questions de menstruation, de grossesse et de ménopause avec des femmes mayas. Et elle nous dit « Certaines femmes mayas ont été déconcertées par mon insistance à aborder la ménopause et ses effets hors de la cessation des menstruations, à tel point que la question m'était retournée et qu'on me demandait « Est-ce que vous pensez que c'est un événement anormal qui n'arrive qu'aux femmes mayas ?» Donc voilà, elle était dans une situation d'incompréhension de la part de ces femmes à aborder ce qui, pour elles, n'était pas chargé de signification particulière. Dans le Japon traditionnel, étudié par Margaret Locke, la ménopause, elle est finalement intégrée au processus de vieillissement, à l'idée de vieillissement, mais de manière beaucoup plus large, puisque on porte attention à l'arrêt des règles et de la fertilité, ni plus ni moins chez les femmes qu'elles rencontrent, qu'au blanchiment des cheveux ou à la baisse de la vue. Et quand on parle de ce processus de vieillissement, on utilise le terme de konenki, terme qui est utilisé aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc, on ne porte pas d'intérêt particulier à l'arrêt des règles et de la fertilité, qu'on ne conçoit pas comme une période de déséquilibre particulier, et on l'envisage comme faisant partie du cours du processus normal de vieillissement, sans faire une distinction particulière entre les deux sexes. Donc, la ménopause, c'est pas un signifié universel. Ensuite, dans certaines sociétés dites traditionnelles, ce que montrent les recherches anthropologiques, c'est que un statut différent est conféré aux femmes menstruées et fécondes et à celles qui n'ont plus de règles et qui sont stériles. Je prends l'exemple des Barouillas de Nouvelle-Guinée qui sont étudiés par Godelier. En fait, Godelier montre que à partir du moment où les femmes n'ont plus de sang menstruel qui s'écoule, eh bien, l'autorité de ces femmes grandit. Pourquoi ? Parce que l'écoulement menstruel est perçu comme un flux dangereux et menaçant pour les hommes. Et donc, avec la cessation des règles, eh bien, ça leur confère des libertés de parole, des libertés d'action que les femmes qui sont en période de menstruation ne peuvent pas s'arroger. Et elles peuvent même donc, acquérir une place politique. Et donc, voilà, un statut social qui est moins dévalorisé que les femmes, que celui des femmes en période de menstruation. Chez les Béti au Cameroun, qui ont été étudiées par Jeanne-Françoise Vincent, la ménopause, elle confère également un nouveau statut. Déjà, c'est l'arrêt de la soumission des femmes en matière sexuelle. C'est aussi la possibilité d'accéder à des fonctions de pouvoir, comme le rôle de femme chef dans des sociétés secrètes. Et donc, finalement, un moment, la ménopause, où les femmes endossent des rôles importants avec des responsabilités fortes et un pouvoir réel. Donc, on voit bien le caractère culturellement construit de la ménopause, qui n'est pas seulement un processus biologique, mais aussi l'objet de représentation sociale et qui met en jeu les statuts différents pour les femmes et donc le système des rapports sociaux de sexe. La ménopause, c'est aussi une notion qui est historiquement construite et une notion qui a donc une histoire. En fait, ce qu'on remarque à l'étude des ouvrages médicaux, c'est que la ménopause, qui est une catégorie médicale, elle a connu des transformations, dans sa définition, au gré des transformations des savoirs sur le corps. Avant le 19e siècle, le terme ménopause n'existe pas. Dans les traités de médecine, on parle jusqu'à la fin du 18e de la cessation des menstrues, et on en parle peu. Et à la fin du 18e apparaît un nouveau terme, qui est celui d'âge critique. C'est en 1816, dans un ouvrage intitulé « Avis aux femmes qui entrent dans l'âge critique », que le médecin français Charles de Gardanne fait usage du terme « ménopausis » pour la première fois, afin d'évoquer cette période. Donc, le terme il souligne directement la cessation du flux menstruel. Et dans la deuxième édition de l'ouvrage, en 1821, de Gardanne adopte le terme de ménopause, qu'il utilise dans le titre de l'ouvrage, de la ménopause ou de l'âge critique des femmes. Alors, cette signification du terme ménopause, elle se constitue bien dans le prolongement de la notion d'âge critique, mais avec cette période, en fait, on voit deux particularités émerger, celle d'un temps exclusivement féminin, au contraire des représentations qui étaient associées au vieillissement jusqu'alors et qui étaient relativement communes aux deux sexes, et la ménopause, au contraire de l'âge critique, sera abondamment étudiée dans la littérature médicale. Alors, en m'appuyant sur les travaux de l'historien Thomas Laqueur, qui s'inscrivent dans une perspective d'épistémologie du corps comme espace de pouvoir, hérité des travaux de Michel Foucault, j'ai analysé l'émergence, l'invention de la notion de ménopause comme le fruit de l'affermissement du modèle des deux sexes. À mon sens, la catégorie ménopause, elle découle du phénomène que Laqueur a identifié comme la fabrique du sexe, c'est-à-dire ce mode de pensée fondé sur la bicatégorisation des sexes et dont le processus émerge véritablement à la fin du XVIIIe. Auparavant, on a la représentation d'un modèle unisexe, dans laquelle la femme est perçue comme une version amoindrie de la version masculine du corps, mais sur un continuum. Donc finalement, un corps féminin qui est perçu comme une version moindre que du corps masculin, mais pas son opposé. Et à partir du 18e, donc, ce que montre Laqueur, c'est que à partir donc des Lumières, dans cette période de rationalité, prise d'ampleur de la biologie et des catégorisations, en fait, eh bien, le corps et ses fluides vont devenir des principes de un principe de distinction opéré entre les deux sexes. Et à mon sens, c'est bien quand cette catégorisation binaire accède à une place dominante dans la pensée, moment où émerge cette biologie féminine, que émerge également la notion de ménopause. Alors, au début du 19e siècle, on n'est pas, comme aujourd'hui, dans une pensée hormonale du corps, mais dans ce système des humeurs. Et on explique la ménopause comme résultant d'un manque de force chez les femmes pour expulser le sang des règles. Il y aurait donc un trop-plein de sang dans le corps, une pléthore sanguine qu'il faut expulser puisqu'elle serait délétère, cette pléthore sanguine. Et c'est pour ça que les médecins proposent aux femmes à la ménopause la position de sangsue ou des saignées. La ménopause est le terreau de multiples pathologies. De Gardanne explique en 1821, les maladies qui affligent les femmes à l'âge critique sont si nombreuses, fièvre, inflammation, maladie des articulations, ulcères, furoncles, ophtalmie, angine, pharyngite, hémorroïdes, ulcères de l'utérus, cancer, tumeurs aux mamelles, polypes de la matrice et du vagin, apoplexie sanguine, vomissement de sang, douleurs de tête, hépatite, calcul biliaire, prurite des parties génitales, inflammation de la matrice, rhumatisme, épilepsie, hystérie, paralysie. Voilà donc ce qu'on peut lire sous à la plume de Gardanne. Alors, ce qui est aussi intéressant à observer, c'est que la manière de penser la ménopause, elle est aussi le fruit des préoccupations d'une époque. Si les médecins s'interrogent sur les symptômes associés à la ménopause, leur sévérité, on voit qu'ils les présentent comme très sévères, les causes déterminées varient. Et sous l'impulsion de la critique de la civilisation urbaine à la moitié du 19e siècle, certains médecins expliquent que les difficultés à la ménopause touchent moins les femmes qui vivent à la campagne que celles des villes qui souffriraient donc particulièrement à cette période parce qu'elles sont exposées aux vices urbains. C'est également certains médecins qui, plus tard dans le 19e siècle, vont expliquer qu'à la ménopause, il faut absolument ne pas s'adonner au vélo ou ne pas prendre le train, puisque voilà, ce serait absolument délétère du fait de la vitesse. Alors, la définition de la ménopause au XIXe siècle, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui, parce qu'on on a changé de paradigme en termes de pensée du corps. Et en fait, la définition qu'on a aujourd'hui, elle s'inscrit dans notre modèle hormonal du corps, développé donc à partir des années 1900-1920. Aujourd'hui, Le point de vue qui construit la ménopause, c'est toujours le point de vue médical. Donc, il est le cadre légitime d'énonciation de la ménopause. Et puis, il est repris par les institutions publiques, comme l'assurance maladie, ce qui va asseoir sa légitimité. Alors, quand on étudie les ouvrages médicaux actuels, on observe quoi ? On observe que les énoncés construisent l'entrée en ménopause à partir d'une rhétorique du désordre, voire du chaos. Les ouvrages médicaux parlent d'orages hormonaux, de fluctuations hormonales qui évoluent sur un mode totalement imprévisible et aléatoire. La ménopause est ensuite associée aux symptômes, bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, pathologie gynécologique. Le champ lexical de la carence parcourt tous les discours, donc c'est la carence hormonale, carence en œstrogène, défaillance endocrinienne. Et puis, la ménopause, elle est aussi associée au risque et à la maladie, notamment le risque d'ostéoporose et de cancer. Si on regarde de manière un peu plus fine, on remarque que sous la plume des médecins, si la ménopause, elle a des conséquences physiques, elle a également des conséquences psychologiques et émotionnelles. Dans les ouvrages, lui sont associés l'asthénie, la perte d'attention, le manque de motivation, l'irritabilité, l'angoisse, la dépression nerveuse. Et finalement, les conséquences de la ménopause apparaissent presque sans fin. Je cite un ouvrage de gynécologie daté de 2002 qui nous explique que la ménopause s'accompagne généralement de troubles fonctionnels immédiats qui altèrent la qualité de vie et de répercussions urogénitales, osseuses, cardiovasculaires et neurologiques pouvant à moyen et long terme entraîner des complications graves et engager le pronostic vital. Donc, finalement, la ménopause, elle n'est pas décrite comme une transformation liée au cours normal du vieillissement, mais comme un déséquilibre qui engendre des symptômes physiques, psychologiques, un bouleversement qui est directement associé à la pathologie, à la déficience et au risque. Et du côté des médias, on peut même dire qu'il y a une dramatisation, puisque la ménopause est directement associée à la maladie, voire qualifiée de maladies. Je prends trois exemples tirés de sites internet type Doctissimo ou Passeport Santé. J'ai trouvé un article sur la ménopause dans la catégorie maladies des seniors, ou dans un article sur les maladies hormonales, un onglet « Bien vivre sa ménopause », ou encore dans un index des maladies de A à Z, à la lettre M, un article sur la ménopause. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces discours médicaux et médiatiques à partir d'une perspective sociologique? D'abord, penser la ménopause comme un dérèglement entraînant toute une série de symptômes physiques et psychologiques, entretient qu'elle est un problème de santé à soigner et produit une homogénéisation des expériences des femmes, comme si toutes avaient des symptômes invalidants et vivaient difficilement cette période, ce qui renvoie aux représentations du vieillissement féminin, qui dans notre société sont à la fois négatives et pathologisées. Ensuite, décrire la ménopause comme une carence hormonale, c'est faire comme si elle n'était pas l'entrée dans une nouvelle norme hormonale, mais comme une anormalité. Pourquoi ? Parce que la carence hormonale, elle est calculée à partir des taux hormonaux de femmes en période de fécondité, comme si ces taux étaient la norme et qu'une femme normale était une femme féconde. Ce qui renvoie là directement à une vision du féminin comme définie par la fécondité. Et enfin, si la ménopause est autant investiguée dans les discours médicaux et médiatiques, le vieillissement au masculin l'est beaucoup moins. On parle très peu d'andropause, par exemple. Et le vieillissement masculin est moins pensé comme précoce, délétère et carentiel. Et là, on touche à deux manières de voir le vieillissement, ce double standard évoqué par Susan Sontag. D'un côté, un vieillissement masculin qui est synonyme de maturité, d'expérience et valorisé. Et de l'autre côté, un vieillissement féminin dont la ménopause est la porte d'entrée et qui est vu comme plus précoce que le vieillissement masculin, du côté de la déficience. Est plus disqualifié que le vieillissement masculin. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, et là, on va sortir des analyses de discours sociaux, c'est ce que j'ai montré à partir des entretiens que j'ai réalisés avec les femmes que j'ai rencontrées. C'est qu'on peut analyser l'expérience de la ménopause dans une perspective interactionniste comme un apprentissage. Un apprentissage qui débute par la ménopause sociale jusqu'à la ménopause physiologique et qui met en jeu des normes de sexe et des normes d'âge. D'abord, ce que j'ai montré, c'est que l'expérience de la ménopause elle commence à partir de la quarantaine par ce que j'ai appelé, en reprenant le terme de l'ethnologue Yvonne Verdier, la ménopause sociale, c'est-à-dire cette norme de déprise de l'activité de reproduction avant la cessation de la fertilité physiologique. Cette norme de ménopause sociale, donc, elle enjoint les femmes à une déprise de la fécondité à partir de la quarantaine. Et elle s'opère notamment au sein de l'institution médicale. Elle passe par la dichotomie qui est réalisée dans les discours et les pratiques médicales entre les grossesses avant et après 40 ans. Dans les ouvrages médicaux, on a une discrimination entre les grossesses avant et après 40 ans. Les grossesses après 40 ans, elles sont qualifiées de grossesses tardives, de grossesses à risque, et on consacre des chapitres particuliers à ces grossesses-là. Donc, en creux, le discours médical, eh bien, il invite à une déprise de la fécondité à partir de la quarantaine, puisque les ouvrages médicaux expliquent que ces grossesses après 40 ans sont indésirables, je cite un ouvrage, hein, indésirables tant sur le plan médical que social. La norme de la ménopause sociale, on la voit aussi très nettement à l'œuvre dans les médias, au sujet des grossesses et des maternités des stars, qui sont soumis à un traitement particulier, qui passe par la mise en exergue de l'âge des femmes. Alors je cite Elle Magazine, hein. À 45 ans, Monica Bellucci vient de donner naissance à son deuxième enfant. Ou encore un autre article intitulé « Sonia Dubois, mère à 46 ans ». Donc on a toujours la mise en exergue de l'âge. Et puis, on observe aussi l'association de ces grossesses et de ces maternités à un danger potentiel. Le magazine Marie-Claire explique « Claudia Schiffer et Monica Bellucci ont fait dernièrement la une des magazines People en affichant leur ventre rond. À respectivement 40 et 45 ans, assumer une grossesse tardive pose certaines questions. » Donc, en associant systématiquement ces grossesses avec la notion de danger, finalement, les discours médiatiques me semblent fonctionner comme des rappels de ce que la maternité à la ménopause sociale constitue une infraction à la norme. Alors, la norme de la ménopause sociale, elle est largement articulée aux normes de genre. Elle vise la catégorie des femmes. Elle ne s'applique pas aux hommes et les paternités tardives ne sont pas présentées sous le signe du risque. Et dans les médias, l'âge des hommes qui ont un enfant après 50 ans, par exemple, n'est pas souligné. Donc elle vise la catégorie des femmes et elle consiste en une injonction à un certain usage du corps, un bon usage du corps à partir de la quarantaine. Donc voilà, c'était pour vous décrire un peu comment se construit cette norme de la ménopause sociale. Son apprentissage, je m'apesantirai pas sur ce point-là, mais voilà, il se fait par la socialisation et l'incorporation des représentations et des normes produites par les discours médicaux et médiatiques. Et parmi toutes les femmes que j'ai rencontrées, aucune n'avait eu d'enfant après 42 ans. Bon, je passe rapidement sur ce point. L'apprentissage de la ménopause physiologique, il se réalise également par une large diffusion du discours médical que j'ai analysé comme une forme d'éducation des femmes. Éducation qui va les guider dans la lecture de leur corps et de ses manifestations à la ménopause. Je vais donner un exemple. C'est un ouvrage du docteur Anne de Kervas-Doué, « Question de femme », réédité maintes fois depuis les années 90, qui conseille ceci. À la ménopause, notez tous vos symptômes sous la forme d'un cycle reconnaissable sur un agenda. Donc, on a là c'est un exemple d'ouvrage, mais qui montre comment les magazines, mais aussi les ouvrages de vulgarisation médicale, tentent à éduquer les femmes à porter attention à certaines manifestations corporelles, à certaines sensations et à interpréter en fait les signes du corps. Ils nous disent qu'il faut que les femmes sachent explorer les signes annonciateurs de la ménopause qui sont nombreux, nous dit Santé Magazine. On nous explique comment repérer le début de la période charnière dans un autre magazine ou encore... Dans un mémento santé, la ménopause entraîne des changements physiques et psychiques qu'il faut connaître pour mieux s'y préparer. Donc voilà, cet ensemble de discours qui participe d'une forme d'éducation des femmes. Ce qui m'est apparu, c'est que l'apprentissage de la ménopause physiologique, elle se fait également en interaction avec le médecin et avec d'autres femmes. Pour ce qui est de l'interaction avec le médecin, moi, toutes mes enquêtées ont évoqué la ménopause avec un médecin, que ce soit l'objet de la consultation médicale ou pas. Et au cours de la consultation médicale, ce qui m'est apparu, c'est que le médecin, il se fait éducateur. Et la consultation médicale peut s'analyser comme un espace d'éducation. Mais d'éducation à quoi ? D'éducation aux symptômes. Je vais citer une de mes enquêtées, Monique, qui m'explique. Quand j'étais allée voir mon médecin, il m'a dit que la ménopause donnait quatre choses. Il m'a dit bouffée de chaleur, énervement, plus de règles et grossir. Donc on a là une sorte de grille de lecture symptomatologique qui fonctionne comme cadre d'expérience pour les femmes. Cet apprentissage, hein, il peut même prendre des formes très rigoureuses, comme c'est le cas pour Pascal, dont le médecin lui a demandé la tenue d'un carnet de symptômes. Donc, on a là, finalement, une éducation aux symptômes, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, ça forme un cadre d'expérience où l'association de la ménopause et du corps ménopausé à un certain nombre de symptômes va finalement être le seul cadre d'expérience. Et ce qui fait que même pour mes enquêtées qui n'ont pas vécu de manifestations corporelles particulières, eh bien la ménopause, elle résonne avec symptômes. Et mes enquêtées qui n'ont pas éprouvé de manifestations corporelles à la ménopause m'ont expliqué avoir eu l'impression de ne pas avoir eu la ménopause. Alors, hors de la consultation médicale, l'apprentissage de la ménopause physiologique, elle se réalise aussi en interaction avec les femmes de la famille et avec les pères. Et au cours de ces interactions, c'est bien un savoir qui s'échange et qui s'acquiert et qui passe souvent par le partage d'expériences. Je passe rapidement là-dessus, mais ce qui me semble intéressant à observer, c'est que lorsque la ménopause est objet d'interaction, c'est toujours dans le registre du symptôme, notamment celui visible et dissible des bouffées de chaleur, comme si en fait le symptôme constituait la manière légitimée d'évoquer cette expérience entre femmes dans notre contexte social. Alors, le fait que la ménopause soit objet d'interaction dans le cadre familial, par exemple, ça m'a semblé être dépendant des milieux sociaux des femmes. Je passe aussi rapidement là-dessus. Et pour ce qui est des interactions hors de la sphère familiale, ce qui m'est apparu, c'est que toutes les actrices de ces interactions devaient être ménopausées. Et donc, je n'ai pas observé en fait, de transmission d'expérience, d'une expérience physiologique à des femmes qui ne seraient pas engagées dans le processus de ménopause. Alors, plus largement et au-delà de cet apprentissage, la plupart de mes enquêtées, elles associent la ménopause d'abord à une triple libération. Première libération, celle des contraintes associées au travail d'invisibilisation du flux menstruel. Deuxième libération, celle de la crainte des grossesses. Troisième libération, celle de la gestion de la fécondité du couple. Ensuite, les représentations que mes enquêtées associées à la ménopause sont celles d'un état, pour reprendre les termes de Claudine Herzlich, un état entre santé et maladie. Donc un état de déséquilibre qui est complètement articulé au déséquilibre hormonal. En fait, mes enquêtées, elles partagent les représentations d'un corps dépourvu d'hormones féminines ou en manque d'hormones à partir de la ménopause. Et de ce manque ou de cette perte découle l'image d'un corps à risque. Puisque le corps ne serait plus protégé par les hormones, eh bien, il est perçu, à partir de la ménopause, comme potentiellement vulnérable. Et puis, les femmes perçoivent aussi le corps de la ménopause comme le lieu de transformation indésirable. Et elles me parlent de l'épaississement du corps et des bouffées de chaleur, notamment. Alors, à ces transformations indésirables du corps répondent des traitements, des dispositifs mobilisés par mes enquêtés, hein, qu'ils soient dits naturels ou hormonaux, que ce soit un nouveau régime alimentaire ou une nouvelle discipline sportive. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que la ménopause va de pair avec un travail, un nouveau travail ou un travail du corps approfondi pour les femmes que j'ai rencontrées. Donc, ce qu'on voit bien là, c'est qu'il y a une sorte de culture de ménopause qui est partagée par mes enquêtées, qui est propre à notre contexte social. Et ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, donc dans un troisième point, c'est qu'au-delà de cette culture commune, eh bien, les expériences des femmes n'en sont pas moins très hétérogènes. Alors, dans les entretiens que j'ai menés, j'ai cherché à comprendre comment les femmes vivaient la ménopause. Ce qui m'est d'abord apparu, c'est qu'on ne devient pas ménopausée du jour au lendemain. Et les expériences des femmes forment un processus de la ménopause sociale à la ménopause physiologique, et elles sont à saisir, hein, en tant qu'elles sont un processus et donc dynamique. Et ce qui va jouer au cours de ce processus, au cours de cette trajectoire, hein, pour reprendre le terme de Strauss, eh bien, ce sont quatre éléments de contexte. Le premier élément de contexte, c'est l'âge de la ménopause physiologique. C'est-à-dire que selon qu'on est ménopausé à 45 ou à 55 ans, eh bien, l'entrée en ménopause est perçue par mes enquêtés comme une déviance ou une congruence. La déviance, je l'ai rencontrée, cette perception de déviance, je l'ai rencontrée chez des femmes ménopausées dans leur quarantaine et qui vivaient l'entrée en ménopause comme contrevenant aux normes de fécondité qui impliquent que si à la quarantaine une femme est socialement stérile, elle doit être encore physiologiquement féconde. Je cite les propos de Virginie donc, qui nous dit « Être ménopausée à 45 ans, disons, j'aurais aimé avoir des cycles un peu plus longtemps. La mère de mon conjoint, elle a été ménopausée vers 55 ans. Ça, c'est dans la règle du jeu. Mais 45 ans, comme moi, j'étais pas préparée à ce que ça s'arrête si tôt. Donc, ce que je ressens, c'est de l'incompréhension, du désarroi, des regrets. » Au contraire, l'entrée en ménopause, elle est vécue sous le registre de la congruence par les enquêtées ménopausées à partir de la cinquantaine parce qu'elles répondent aux normes en matière de stérilité, comme Evelyne qui m'explique « La ménopause, ça m'a paru normale. J'avais 55 ans. J'ai trouvé que c'était dans la règle de la vie. » Donc voilà pour le premier élément de contexte qui va construire une entrée en ménopause sous le signe de la déviance ou de la congruence. Deuxième élément de contexte maintenant, ce sont les représentations associées par les femmes aux manifestations corporelles à la ménopause. Et là, je vais m'intéresser plus particulièrement à la question des représentations associées aux bouffées de chaleur. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fonction des milieux sociaux et des lieux de résidence, le corps est perçu différemment. Les représentations somatiques, pour parler comme Boltanski, sont différentes et elles vont engendrer des pratiques différentes. Alors, pour mes enquêtées qui vivaient en milieu urbain, a fortiori des femmes cadres dans des grandes institutions ou en contact avec une clientèle, les bouffées de chaleur sont vécues sur le registre du stigmate. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le cadre professionnel est pour elles un espace particulièrement propice à perdre la face dans des situations pour elles d'enjeux de pouvoir notamment. Et ces enquêtées finalement, pour ne pas perdre la face et continuer à pouvoir performer un corps maîtrisé hein, dans ces espaces professionnels, elles vont chercher à invisibiliser ces manifestations corporelles, notamment par l'usage d'un traitement hormonal, donc pour retrouver un corps qui est pensé sous le registre de la performance et de la maîtrise. Pour les femmes qui, elles, résident, pour mes enquêtées, hein, qui résident en contexte rural et plutôt de milieu populaire, le corps et les manifestations corporelles, elles ne mettent pas du tout en jeu les mêmes représentations et elles n'engendrent pas les mêmes pratiques. En fait, ce type d'enquêtée mobilise des représentations naturalistes du corps et m'explique que les bouffées de chaleur... comme me dit Pauline, moi, avec les bouffées de chaleur, je laisse la nature faire. S'il y a des passages de bouffées de chaleur, de suées nocturnes, on n'y peut rien. Il faut laisser le corps, la nature faire. Donc, on a finalement cette représentation de bouffées de chaleur comme une des manifestations légitimes de la nature en soi, auxquelles elles vont opposer une endurance valorisée. Sophie m'explique, moi je suis une battante, à la ménopause, dans sa tête, il faut dire que c'est rien, ça passe, et puis voilà. C'est vrai, les bouffées de chaleur, c'est désagréable, mais moi, je ne m'écoute pas, j'ai passé outre, et hop, je continue. Et chez ce type d'enquêté, la prise d'un traitement hormonal n'est pas du tout valorisée, Elles se défient hein, de ces traitements hormonaux qu'elles perçoivent comme des objets non naturels qui viendraient contrevenir à la nature du corps, qui viendraient à l'encontre hein, de la naturalité du corps. Donc, deuxième élément de contexte, hein, les représentations associées au corps et aux manifestations corporelles. Le troisième élément de contexte qui vient construire cette trajectoire de ménopause, eh bien c'est le partage de l'univers de signification avec le médecin. Je vous le disais, toutes mes enquêtées ont rencontré un médecin avec lequel elles ont abordé la ménopause, que ce soit l'objet de la consultation ou pas. Et ce qui m'est apparu, c'est que la consultation médicale, eh bien, c'est une interaction qui va, pour reprendre les termes de Berger et Luckmann, confirmer ou infirmer la réalité de la patiente selon que s'y effectue ou non le partage d'une représentation commune, d'une définition commune au sujet de la ménopause et du traitement à y apporter. Et ce qui se joue au cours de la consultation médicale, pour les femmes, c'est le fait que leur définition de la ménopause, leur représentation et leur valeur quant au traitement à y apporter sont ou non partagées avec le médecin. Donc dans certaines configurations, hein, quand il y a de la part du médecin une légitimation des définitions, des représentations, des savoirs expérientiels des patientes, eh ben, ce qu'on observe, c'est une confirmation de la réalité. Dans d'autres configurations, eh bien, la consultation médicale n'est pas le lieu d'un partage, n'est pas le lieu d'une légitimation par le médecin. Des significations et des représentations de la patiente. Je prends l'exemple de Annette qui nous explique « Le premier médecin que j'ai vu au début de la ménopause, je lui ai parlé des bouffées de chaleur. Alors, il a suggéré que je prenne le traitement hormonal, mais moi, j'ai refusé. Pour moi, c'est un médicament, c'est chimique, et je voulais que ça se passe le plus naturellement possible. Alors, je lui ai parlé d'autres moyens, des remèdes chinois, mexicains, des remèdes aux plantes. Et lui, il me disait, oh les plantes. J'ai dit, bon, ben merci, je vais aller chercher moi-même. Donc, dans ce type d'interaction, hein, on voit que la consultation médicale n'est pas le lieu d'un partage de représentation entre les deux acteurs. Et ce sont souvent ce qui est corroboré hein, par des études nord-américaines, hein, ce que des, finalement, plus des mécanismes d'imposition, de signification et de persuasion quant au traitement à prendre que donne lieu hein, la consultation médicale plutôt que de négociation et de partage entre les deux acteurs. Alors, quand, lorsqu'il n'y a pas hein, de partage de signification, mes enquêtées, elles se tournent vers d'autres acteurs et d'autres sources d'informations, que ce soit un autre médecin, des pharmaciens, des pairs, ou alors beaucoup également qui mobilisent des forums de sites internet. Dernier élément de contexte qui vient construire la trajectoire de ménopause, c'est le partage de l'univers de signification avec le conjoint. Alors, je mets le conjoint au masculin. Pourquoi ? Parce que sur mes 30 enquêtées, une seule était en couple avec une femme au moment de la ménopause et elle n'a pas souhaité me parler de comment ça se passait entre elles deux à ce sujet. Donc voilà, je mets le conjoint au masculin. En fait, ce que j'ai observé, c'est que les réactions, les actions et les réactions du partenaire jouent sur l'expérience de la ménopause. Et plus précisément, ce qui est en jeu dans le couple, ça va être la capacité du partenaire à trouver la bonne distance, pour reprendre le terme de Vincent Caradec, au sujet de la ménopause et de ses conséquences, c'est-à-dire à se faire à bon escient, discret ou présent pendant cette période, selon finalement les souhaits de la compagne. Ce qui est alors en jeu, c'est le partage de représentations associées à la ménopause et un travail sur les sentiments, caractérisé notamment par un travail de face, hein, le face work, étudié par Goffman, qui va être réalisé par les partenaires. Et dans ces cas de figure, eh bien, la réalité des femmes se voit confirmée. Dans d'autres configurations conjugales, la ménopause ne constitue pas un objet de partage de signification et de représentation avec le conjoint, soit qu'il ne garde pas la bonne distance, donc il est soit trop présent, soit pas assez, soit que les deux partenaires ne partagent pas les mêmes représentations de la ménopause. Je prends l'exemple de Rachel qui m'explique, en fait, celui que ça a beaucoup marqué, la ménopause, c'est mon conjoint. Il m'a fait une scène parce que j'étais ménopausée. Je lui ai dit, mais moi, je me sens bien, hein, ça va. Mais pour lui, la ménopause, c'était le fait que j'étais plus une femme, quoi. Il pensait que ça allait changer quelque chose, que j'allais devenir quelqu'un d'inconnu d'une certaine manière. Mais non. Donc, deux types de configurations conjugales, où là, ce qui est important, hein, donc c'est cette bonne distance et le partage d'une définition et des représentations associées à la ménopause. Alors, pour conclure, je souhaiterais d'abord souligner, j'espère vous l'avoir avoir réussi à vous le montrer, que loin d'être un seul processus physiologique, hein, la ménopause, elle met en jeu des représentations sociales et des interactions sociale. Ensuite, que la ménopause, elle apparaît finalement comme l'extrémité d'un continuum qui s'ancre directement dans le système des rapports sociaux de sexe, qui commence à la puberté et au fil duquel le corps des femmes, classé du côté de la nature, du déséquilibre, du trouble, apparaît à la fois comme le plus exposé, le plus décortiqué et comme toujours problématique, que ce soit du fait des menstruations, des évolutions hormonales, des grossesses, des accouchements et in fine de la ménopause. C'est aussi ce corps qui est classé du côté de la reproduction alors que la carrière reproductive des hommes est plus longue. Et c'est ce corps qui est classé du côté de l'instabilité, notamment hormonale, comme si la spermatogénèse ne mettait pas en jeu une évolution hormonale également. Et on l'a vu, c'est ce corps dont le vieillissement reproductif est largement investigué et contrôlé, au contraire du vieillissement reproductif masculin. Donc, il me semble que la ménopause, elle constitue un analyseur pertinent des enjeux du corps et du vieillissement dans la perspective des rapports sociaux de sexe. Et enfin, je terminerai en soulignant que, loin de renvoyer à une expérience féminine univoque, essentialisée, les expériences des femmes à la ménopause sont au contraire caractérisées par l'hétérogénéité et la dynamique. Je vous remercie.